Salut à tous, bienvenue dans le Tatou du Coin, le podcast pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur l'univers du tatouage ou approfondir ses connaissances. Je suis Agnan Banolzer, aussi connu sous le nom du Bûcheron du Coin, tatoueur depuis près de 6 ans et diplômé des Beaux-Arts. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Tatou du Coin, j'espère que vous allez bien, merci à tous de me suivre une nouvelle fois pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, un sujet que je trouvais assez cool à aborder, c'est le tatouage dans le monde du jeu vidéo. Alors comme d'habitude, pour commencer, je vous propose de un petit peu poser les bases, poser les bornes et délimiter un petit peu l'univers dans lequel on va intervenir, c'est-à-dire... Qu'est-ce que est devenu le jeu vidéo actuellement ? Quelle importance il a dans notre société ? Et puis on va y rattacher l'univers du tatouage. Alors le monde du jeu vidéo de nos jours, c'est devenu quand même quelque chose de très très conséquent, ne serait-ce que financièrement et puis même socialement. Le jeu vidéo, c'est maintenant devenu un vecteur de lien social en fait. Hein. Rien que pour ordre d'idée, le chiffre d'affaires associé à l'univers du tatouage, c'est carrément de 170 milliards en 2022. Alors 170 milliards de dollars, hein, bien sûr, hein, pas de roubles. Et rien que pour la France, c'est 3,5 milliards de bénéfices quoi, pour le jeu vidéo. C'est quand même un sacré truc. Par exemple, pour ordre d'idée, le jeu vidéo le plus rentable du monde, c'est World of Warcraft, avec 9,23 milliards de dollars de recettes quoi. Donc autant vous dire que le jeu, il a éclaté tout le monde de loin. Pour ceux qui ont joué, j'ai joué en guild en plus, hein. j'ai joué vénère comme on dit, et c'est sacré souvenir, super jeu. Bon voilà, ceux qui connaissent World of Warcraft ne sont pas surpris de cette recette, de ce chiffre d'affaires, parce que le jeu est tout simplement, c'est à un moment, c'est plus un jeu, c'est devenu une vie quoi. C'est-à-dire que t'arrêtes de manger, t'arrêtes d'aller aux toilettes, en fait tu fais des AFK bio à la rigueur, mais ça s'arrête là quoi. Alors, pour ce qui est du monde de l'art, là c'est un truc qui m'intéresse plus, vous le savez, le jeu vidéo lui, il s'apparente dernièrement à un art total. Alors en gros, qu'est-ce que ça veut dire un art total ? Bah, c'est qu'il rentre dans la longue liste des arts, hein, au pluriel, inscrit vraiment au patrimoine de l'Académie des Beaux-Arts, ou du moins reconnu par l'Académie des Beaux-Arts, parce que du coup, en fait, le jeu vidéo, quand on y pense, il regroupe plusieurs formes artistiques au sein de sa pratique, comme par exemple l'architecture, la musique, le dessin, la littérature, ou encore la mise en scène, d'ailleurs comme le cinéma. Donc aujourd'hui, c'est considéré comme le 10e art par les institutions politiques et juridiques. Alors, c'est une chose qu'on peut lui refuser aussi, parce que certains disent que du fait qu'il soit interactif et compétitif, et que ce soit un marché lucratif, il y a une certaine ambiguïté avec le terme art. Bon, j'ai envie de dire que l'art aussi est lucratif, la musique aussi, et puis c'est pas parce qu'il y a une compétition ouverte que forcément il faudrait le sortir du monde de l'art. Bon, c'est toute une discussion, j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Alors après, c'est sûr que d'un autre côté, les gars, les boomers là, qui ont fait leur classement, ils l'ont fait après un resto à 600 boules, là, avec 4 bouteilles de Merlot, du Icardo Reserva, là, ou un petit Lalande de Pomerol à 400 balles la bouteille. Le ventre bien repu, et il fallut remplir des papiers pour prouver son salaire. Bon, là-dessus, je suis pas forcément complètement raccord. Je trouve que le jeu vidéo est encore un petit peu trop jeune pour être sûr qu'il puisse rentrer comme ça vraiment dans la longue liste des arts grandioses, quoi, on va dire, voilà, des institutions de l'art. Mais il faut bien que ça rentre à un moment, et puis le temps passant, ça deviendra aussi un vieux monument artistique de nos vies, quoi. Bon, voilà, alors là, on a un peu cerné ce que c'est le monde du jeu vidéo aujourd'hui, mais... Du coup, du fait que le jeu vidéo soit aussi répandu et aussi connu, bah, qu'est-ce qui se passe ? C'est demande croissante de tatou de jeux vidéo. Que ce soit du pixel art ou encore voilà, des références à Dark Souls ou Elden Ring, bon, là, je prends ces références-là parce que dernièrement, c'est vraiment des trucs qui font, qui sont largement vus et qui sont beaucoup utilisés, mais je trouve que c'est plutôt pas mal parce que pour Elden Ring, ça s'y prête plutôt bien. Il me semble que les graphistes d'Elden Ring se sont eux-mêmes inspirés d'ailleurs de beaucoup de choses qu'a fait Gustave Doré. Donc bon voilà, moi j'y trouve mon compte, là il n'y a pas de souci, je trouve ça très cool. Alors, en gros, ce qui se passe avec le tatouage et les héros présentés dans le tatouage ou anti-héros ou personnages subalternes, c'est que ça devient un peu les nouvelles égéries. Quoi. Ça accompagne en fait complètement la nouvelle génération d'ailleurs, qui crée des souvenirs avec. Ça stimule vachement l'imaginaire des nouvelles générations, où souvent ça leur permet de s'identifier à tel ou tel personnage ou à tel et tel univers. Et puis, surtout à ne pas oublier, il y a la dimension sociale en fait. Comme je vous disais, avec World of Warcraft, il y a un côté presque martial dedans. Il ne faut pas oublier que dedans, ça monte des raids. Donc des raids, c'est des expéditions comme ça à plusieurs joueurs qui sont connectés ensemble sur le même serveur, qui jouent ensemble en temps réel. Et qui vont essayer de battre un boss où il va falloir toute une organisation avec des gens qui soignent, des gens qui attaquent, des gens qui défendent. Et puis il y a toute une stratégie comme ça qu'il faut trouver, qui est souvent timée, qui est vraiment extrêmement organisée. Donc ça demande comme ça beaucoup d'interactions, beaucoup de dialogues, beaucoup de disciplines. Je crois d'ailleurs que plusieurs personnes qui étaient vraiment très haut placées dans World of Warcraft ont eu des belles opportunités, des offres d'emploi pour gérer des équipes ou des trucs comme ça, parce que vraiment c'est, et je vous dis ça, j'y ai joué, c'est vraiment une organisation assez incroyable quoi, et c'est, faut un peu d'huile de coude quand même. Donc voilà, aujourd'hui en gros on se retrouve avec ça dans les tuyaux, on se retrouve avec cette culture indéniable qui maintenant est clairement indéniable, qui est là, qui est partie pour rester. Et quand moi je faisais référence peut-être au Club Dorothée ou à Téléchat, et ben voilà, moi qui a vu la télé s'installer correctement, je pense que la télé couleur, hein, soyez pas insultant, je pense que les jeunes générations, voilà, elles ont maintenant le jeu vidéo facile, et c'est une pratique qui a rythmé leur vie et qui rythme leur journée, même encore aujourd'hui quoi. Et puis le jeu vidéo a pris aussi cette dimension très cinématographique, ce qui fait que l'immersion, elle est beaucoup plus importante aujourd'hui. Bon, du coup, on va regarder quels sont les personnages préférés des geeks qui se font tatouer. Quels sont les personnages les plus souvent tatoués ? Alors, je suis allé sur un site, qui s'appelle JDG. Et c'est un article de Grégory Pujol, qui a recensé en fait. Alors, il dit que c'est un site qui a analysé en fait les hashtags sur Instagram et sur TikTok pour déterminer quels personnages de jeux vidéo sont les plus tatoués parmi les fans de gaming. Voilà, donc j'ai le classement sous les yeux, d'après ces études, des 10 premiers personnages les plus tatoués au monde. Alors effectivement, là, j'en vois aucun qui n'est absolument pas connu, c'est logique, quelque part. Mais rien que comme ça pour voir, à votre avis, je pense que tout le monde a joué aux jeux vidéo, tout le monde connaît un peu l'univers du jeu vidéo, selon vous, comme ça, quel serait le premier personnage qui pourrait apparaître dans cette liste ? Allez, je vous laisse un petit compteur, je vous laisse réfléchir. Essayez de penser de façon pragmatique. Quel serait le premier personnage le plus tatoué de tous les personnages de jeux vidéo ? Et en numéro 1, avec 33 900 hashtags sur Instagram, 10 703 140 hashtags sur TikTok et 11 900 recherches Google, c'est bien entendu Pikachu, ce bon vieux Pikaka. Alors, pour le coup, je suis surpris. Je pensais que Pokémon, c'était un animé avant d'être un jeu vidéo. Mais en regardant, c'est une franchise. Donc du coup, ça comprend jeux de rôle, animé, manga, jeux de cartes et jeux vidéo, bien sûr. Alors, moi, je suis complètement insensible aux Pokémon. Je suis pas de cette époque, donc j'ai carrément glissé au travers. Mais je trouve ça très cool. Mon fils les regarde toujours aujourd'hui. L'univers est sympa, hein. Ne me jetez pas des trucs à la gueule. Je trouve ça très cool. Bon, voilà. Première place, Pikachu. Deuxième place, Roulement de tambour, là c'est plus facile. Je pense que vous aviez pensé à lui en premier, bien sûr, c'est Mario, avec 27 500 sur Instagram, hashtag bien sûr, 4 565 hashtags sur TikTok et 7100 Google Recherche. Pardon. Bon, Mario forcément, El Classico. Peut-être Mario plus sur une génération d'avant que les Pokémon, que Pikachu. Dans le cas des deux premiers, je trouve qu'on n'est pas trop sur du hardcore gamer. Je pense que c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde, même le joueur du dimanche. Une petite partie en famille ou avec les frangins ou avec les potes, voilà, ça touche pas encore le nerd, le vrai, le geek profond. Et justement, en troisième place, et effectivement celui-là, je l'ai vu très souvent, c'est Kratos, donc le personnage de God of War. Voilà, ça chute drastiquement, on est à 5100 hashtags sur Instagram, 2 900 000 à peu près sur TikTok, et un peu plus de recherches quand même sur Google, on est à 9800. Bon, Kratos forcément, de par sa prestance, de par son côté peut-être plus violent, associé à toute cette mythologie qui tire énormément aussi vers la culture viking et l'alphabet runique. Je pense que c'est un personnage de jeu vidéo qui va ravir tous les fans d'univers viking, bien sûr. Bon, voilà, je vais pas tous vous les faire, mais en quatrième position, on a Kirby, donc Kirby le petit nuage. En cinquième, on a Sonic. En sixième, on a Ryu, donc Ryu ou Ryu, je sais pas comment on dit, mais c'est le personnage de Street Fighter. En sept, on a Crash Bandicoot. En huit, on a Bowser, donc c'est le deuxième de l'univers de Mario. En neuf, on a Yoshi, donc le troisième de l'univers Mario. Et en dix, on a Spyro. Alors là, je suis assez surpris. Ce n'est pas forcément un jeu qui est si répandu que ça. J'aurais plutôt eu tendance à parler, je sais pas, de Tomb Raider ou Assassin's Creed. Mais je suppose que cette liste recense effectivement un peu plus le tout venant concernant le monde du jeu vidéo. Donc tout ça, c'est pour les personnages issus du monde du jeu vidéo les plus tatoués. Et maintenant, je vous propose de regarder les personnages dans les jeux vidéo qui sont tatoués. Alors comme ça, de prime abord, c'est assez difficile de savoir quel jeu a proposé en tout premier ou a incorporé le fait du tatouage au sein de son jeu. Même par exemple dans Streets of Rage, qui était un jeu que j'avais sur Mega Drive, donc qui est sorti en 91. Donc c'est un beat'em all, hein, c'est un jeu de bagarre. Il n'y a aucun personnage tatoué. Alors que l'univers du jeu, c'est vraiment trois héros, donc deux gars et une meuf, qui vont dans la rue pour bastonner allègrement du punk. Donc on pourrait se dire qu'effectivement c'est un univers qui se prêterait énormément au tatouage. Or, il faut savoir que personne n'est tatoué dans ce jeu, ni même les méchants. Alors bon, je sais, c'est japonais, d'où sans doute la pudeur ou le refus d'eux. Mais comme dit, même les ennemis n'en ont pas, ce qui est assez, assez étrange. Il y avait aussi Double Dragon, pour ceux qui s'en rappellent. Donc celui-là, il est sorti carrément en 1987, ça ne nous rajeunit pas. Et là, même chose, c'est deux frangins jumeaux, je crois, qui s'amusent à bastonner tout le monde et à sauver la ville. Des malfrats, eh ben, personne n'est tatoué dedans non plus. Alors, il est vrai que j'imagine qu'on n'allait pas se faire chier à pixel pushing les tatouages en plus. Le pixel pushing, en fait, c'est la technique d'animation pour animer les jeux en pixels, comme Metal Slug par exemple. Et comme dit, ça m'étonnerait qu'ils s'amusent à rajouter des tatouages et donc des graphismes qui complexifieraient le mouvement. Mais aujourd'hui, le tatouage est devenu quand même une texture en fait au sein des jeux vidéo, donc c'est beaucoup plus simple à traiter. En fait, on a plein de jeux vidéo maintenant qui sont rempli de tatouages, c'est devenu bien sûr la norme. Alors j'en ai retenu quelques-uns, il y en a plein. S'il y en a qui vous tiennent vraiment à cœur, je vous propose simplement de les mettre en commentaire ou de me contacter si vous trouvez que ça en vaut vraiment le coup. Mais vous allez voir qu'il y a plusieurs utilisations possibles au sein d'un jeu et ça c'est assez intéressant. Alors comme ça c'est pas une liste, comme je disais, exhaustive et puis il n'y a pas d'ordre particulier, je les ai relevés au fur et à mesure. J'ai noté comme ça que dans Mirror's Edge, pour ceux qui ont joué, le personnage principal est une femme qui s'appelle Faith. Elle a des tatous futuristes et c'est une peinture, en fait, c'est un hommage à sa mère. Elle a ce tatouage sur le bras et puis elle a aussi la marque des runners à l'œil. Alors vous voyez d'emblée que même dans le jeu vidéo, on garde quand même des symboliques quand on veut y garder une empreinte un petit peu réelle. On garde quand même, on tatoue le personnage principal, mais on le tatoue pour une raison aussi. Ensuite, j'ai noté Far Cry. Alors, je sais plus lequel, parce que moi, j'ai pas été un joueur de Far Cry, mais c'est un jeu qui est très chouette, donc c'est un FPS. Là, je trouve qu'ils en ont fait une utilisation assez intéressante, c'est que le tatouage, il est sur son bras, et c'est un tatouage qui va évoluer au fil du jeu quand on va gagner des compétences. Donc, ça va être ce qu'on appelle l'arbre des compétences, c'est-à-dire là où il va pouvoir aller attribuer des points ici et là, s'il veut, je sais pas, courir plus vite, sauter plus haut, être plus fort, réfléchir mieux. Et là, ce qui est très cool, c'est que son style de tatouage, il est inspiré un peu, il est dans un style un peu polynésien comme ça. Et en fait, les Polynésiens, ils avaient ce truc, ça fait écho, si vous voulez, aux traditions polynésiennes, où ils se faisaient tatouer des rites de passage et des rituels guerriers. Donc dès qu'ils gagnaient une nouvelle compétence, s'ils sautaient d'un arbre accroché à une corde ou s'ils bravaient tel ou tel exploit, eh ben, on leur tatouait l'exploit sur le corps. Donc là, vous voyez qu'il y a un double emploi, c'est assez sympa, je trouve, de ramener à quelque chose de très terre-à-terre et de concret. Dans Far Cry, le héros gagne ses aptitudes par le biais de ce tatouage. Ensuite, bah bien sûr, comment ne pas oublier notre cher Kratos international. Alors Kratos, c'est de God of War, c'est pas notre Benoît Saint-Denis national, mais c'est tout de même un guerrier sanguinaire. C'est donc un jeu en 3D de beat'em all. Et il a comme ça, comme des grands traits de pinceau rouges sur le corps, ce sont apparemment des répliques, des marques de naissance de son frère. Alors c'est un univers qui est très dans la mythologie et dans la culture viking. Donc effectivement, il y a un alphabet runique qui est très présent pour d'autres personnages tatoués. C'est assez joli ce qu'ils ont fait. Après, c'est surtout esthétique. Ça n'a pas forcément autant de profondeur que dans Far Cry, mais ça reste quelque chose de très joli. J'ai relevé aussi Gears of War. Alors Gears of War, c'est un peu moins touchant le délire. C'est juste simplement des militaires qui vont avoir des tatouages de l'armée. Alors c'est surtout le personnage principal apparemment qui a des tatouages qui peuvent ressembler à ce que des militaires ont. Et sinon, c'est effectivement des références à leur famille décédée ou pas, à leurs enfants, à leurs femmes, etc. Et puis j'ai mis encore The Witcher pour ne pas m'éterniser, mais parce que The Witcher c'est des livres que je trouve très sympas, et puis c'est un jeu vidéo qui est très cool, et c'est une série qui est totalement à chier. Alors dans The Witcher, ils ont fait un truc assez sympa, c'est qu'il y a un clin d'œil avec Geralt de Rive qui va pouvoir se faire un tatouage dans le deuxième volet du jeu, il me semble le deuxième volet, et si vous le gardez... Alors vous n'êtes pas obligé de vous le faire dans l'histoire, hein, mais si vous le faites, il le gardera dans la saison 3. Pour le reste des tatouages dans la franchise The Witcher, il y a pas mal de références aux mafieux russes en général. Quand on voit des tatouages quand ils sont dans les thermes ou les choses comme ça, je trouve que c'est un univers qui se rapproche énormément de l'univers des tatouages russes. Mais sinon, ça s'arrête là. Alors, j'ai retrouvé aussi un jeu qui n'est jamais sorti, si je ne dis pas de bêtises, qui était un jeu destiné uniquement à l'arcade, qui s'appelle Tattoo Assassins, donc les assassins du tatouage, c'est un jeu de combat qui a été développé en 1994 par la division Flipper de Data East, pour donc une sortie en arcade. Il y a quelques prototypes qui ont été testés sur le marché, mais bon, le jeu n'a jamais été officiellement publié. C'est donc un jeu de combat multijoueur quoi. C'est une sorte de Mortal Kombat, je vous invite à regarder. Donc Tattoo Assassin, assassin au pluriel. Le jeu est carrément mais fou de chez fou. C'est l'histoire d'un vieux chinois qui a une encre magique mortelle qui donne vie au tatouage, et donc les combattants en fait peuvent donner vie à leur tatou et s'affrontent comme ça. Et il y a pas des, c'est pas des fatalités comme dans Mortal Kombat, c'est des tatouades, on va le dire comme ça. Je sais pas comment le traduire, mais le jeu est complètement fou, les personnages sont complètement dingues. C'est juste un prétexte pour mettre beaucoup de tatouages dedans, beaucoup de personnages tatoués. C'est un truc vraiment assez unique. La page Wikipédia est toute petite, donc il n'y a pas énorme. Mais franchement, ça régale. Je vous invite à aller voir. C'est un jeu qui a été produit par Mike Marvin. Et voilà. Jeu complètement dingue qui est finalement, malheureusement, jamais sorti. Après, j'ai noté, bien sûr, il y a d'autres jeux, il y a Dishonored, il y a Tomb Raider, il y a GTA, où il y a le fameux trait sous la gorge en pointillé avec écrit « Cut here » du personnage Trevor, qui est fun. Voilà, Final Fantasy et bien d'autres, bien sûr. Mais voilà, pour survoler rapidement... Oui, il y a aussi The Last of Us, The Last of Us 2, où vraiment là, le tatouage, il est touchant. Je ne vais pas développer plus, je vous laisserai découvrir si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est vraiment... là, pour le coup, c'est vraiment un chouette truc. Il y a aussi Overwatch, bien sûr. Et puis, j'ai relevé aussi la franchise Diablo, Diablo 4 notamment, puisque la création de personnages est très évoluée dedans et on peut non seulement choisir le physique, la tête, les cheveux, les yeux, etc. de notre personnage, mais on peut aussi y mettre des tatouages. Alors là, bien sûr, dans l'univers de Diablo, vous n'aurez pas des pin-up ou le choix entre des petits tatouages un petit peu cute avec des salamandres et des dauphins qui sautent dans des cerceaux en feu. Ça va plus être des tatouages un peu tribaux, des tatouages assez violents, des tatouages qui peuvent se rallier comme ça à un univers apocalyptique, quoi. Alors ici aussi c'est assez intéressant parce que dans Diablo 4, il y a vraiment le côté cosmétique, donc on peut habiller son personnage de tatouage, mais il faut savoir qu'on peut aussi les enlever ou les changer en cours de partie via un onglet de vestiaire. Alors la franchise Diablo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une aventure en fait où on incarne un héros qui peut avoir différents pouvoirs, on peut choisir différentes classes, si c'est un guerrier, si c'est un magicien, etc. Et on avance dans un monde comme ça qui est attaqué de toutes parts par les créatures démoniaques. Donc c'est vraiment sur l'univers, le folklore en fait. Si on peut appeler ça un folklore, mais le folklore des enfers. Donc tous les démons veulent venir sur Terre pour terminer l'espèce humaine, ou en tout cas la mettre au rang d'esclave. Alors... Comme je disais, ce qui est intéressant du point de vue cosmétique, c'est qu'on a cet aspect de pouvoir changer quand on veut. Et c'est de toute évidence pas une très bonne sensibilisation à l'importance d'un tatouage quand on s'en fait un. Et malheureusement, ça donne cet effet éphémère, peut-être non important, peut-être interchangeable du tatouage. Ce qui est déjà arrivé, je vais vous prendre un cas très pratique, c'est-à-dire que une cliente est rentrée dans le shop et souhaitait que le prénom qu'elle s'était fait tatouer soit juste remplacé par un autre prénom. Mais comme on n'est pas ni magicien ni dans l'univers de Diablo, malheureusement, on ne peut pas faire ça. Donc là, dans ce cas très précis, je trouve que le tatouage présenté comme quelque chose de cosmétique, c'est très bien. Mais ça pousse peut-être un peu trop d'impulsivité ou un regard qui n'est pas très objectif sur ce qu'est vraiment une aiguille et de l'encre dans la peau. Maintenant, je vous propose pour terminer de parler d'un truc assez intéressant. Ça a fait couler pas mal d'encre sur les internets ces derniers temps. C'est en fait la question des droits, de la propriété intellectuelle, du tatouage, une fois qu'il est utilisé dans le monde du jeu vidéo. Parce que vous le savez, il y a beaucoup de jeux vidéo sportifs, notamment sur le basket, donc la NBA, ou alors sur le football, simplement. Et dans ces moments-là, les joueurs qui sont représentés maintenant sont représentés avec énormément de fidélité, et ils ont été représentés très souvent avec leurs tatouages. Et c'est là qu'arrivent nos chers tatoueurs, et que des procès ont été faits entre éditeurs et tatoueurs. Alors, il y en a eu plusieurs comme ça. Il y a déjà une affaire assez connue avec l'UFC Undisputed et THQ. Donc, un jeu de combat UFC, MMA. Et des tatoueurs qui ont râlé parce que les personnages qui étaient digitalisés, étaient digitalisés avec leur tatouage. Et donc, ça posait des soucis de droit selon les tatoueurs qui ont porté plainte. Il y a aussi eu dans la NFL, donc ça c'est le football américain, avec le jeu NFL Street, et c'est Ricky Williams qui a été digitalisé avec ses tatouages, et c'est les tatouages de ce personnage qui ont créé beaucoup de problèmes. Et dans la NBA, bien sûr, LeBron James, alors pour ceux qui connaissent le basket, pas de surprise. Pour les autres, c'est un joueur extrêmement connu. Un des plus grands joueurs, sans doute. Alors, LeBron James, en fait, il a des tatous assez distinctifs qui apparaissent aussi dans sa version digitale du jeu vidéo, comme je vous l'ai dit. Entre autres, il a le portrait de sa mère à lui, je précise, j'insiste bien, de sa mère à lui, qui s'appelle Gloria, et apparemment, qui ne lui appartiendrait pas, puisque le tatoueur aurait porté plainte. Alors du coup, je suis un peu perplexe, je vous avoue, il faut m'expliquer ce genre de truc. Parce que oui, c'est sa représentation artistique de la mère de LeBron James, mais disons que le tatoueur, là, sur le coup, vraiment, il doute de rien. Parce que là où le tatoueur râle qu'on ne lui a pas demandé la permission de la reproduction digitale de son œuvre, je suppose qu'on n'a pas demandé non plus à la maman qui est décédée de LeBron James ce qu'elle pense de sa reproduction sur la peau de son fils. Alors oui, dans le débat, il y a le fait que LeBron James, dans le jeu vidéo, ça n'est pas LeBron James, donc c'est sa version digitalisée. Mais disons que c'est un petit peu compliqué, je trouve. Enfin, faut avoir les tripes, quoi, pour aller porter plainte pour un truc comme ça. Alors, je vais être très perso, là. Je vais être très subjectif. Moi, je pense clairement que c'est des histoires de thunes. C'est la thune. La thune. Je ne vois pas où serait l'ego de l'artiste à dire que la pièce lui appartient toujours. Ça peut même faire un peu froid dans le dos. Enfin, je veux dire, est-ce que le tatoueur se couche le soir en se frottant les mains, en se disant que la personne est dans son lit avec la pièce de cet artiste en train de dormir ? Est-ce que la personne s'imagine cette personne vivre tous les jours, aller à la piscine, faire du vélo, chier, enfin voilà, manger avec d'autres personnes avec ce tatouage ? Est-ce que ça a un côté satisfaisant de détenir comme ça les droits d'auteur sur une partie du corps de la personne ? Je sais pas trop, franchement je trouve pas ça top. Ou alors ce que je leur propose, c'est de faire signer des contrats, on va en arriver là, hein, de faire signer des contrats aux clients, mais bon, bonne chance quoi, pour expliquer que ce que tu viens de leur mettre dans la peau, en fait ça ne lui appartient pas quoi. C'est assez particulier de faire ça, je trouve. Alors, dans un article d'Alexis Fournol, qui est avocat et qui nous parle un petit peu de cette histoire, il nous dit que les fans inconditionnels de basket et du jeu vidéo NBA 2K vont pouvoir jouer avec encore plus de réalisme puisque les représentations virtuelles de leurs idoles retrouveront bientôt leurs tatouages. Le District Court de New York vient en effet de rejeter l'action en contrefaçon de la société Solid Oak Sketch, gérant les droits de reproduction de plusieurs tatoueurs, dont celui de LeBron James, contre les éditeurs du jeu vidéo Take-Two Interactive Software Inc. et 2K Games Incorporation. Donc en gros, j'en comprends que le jeu avait été interdit, ou en tout cas devait être en stand-by, puisqu'il y a eu une action de Solid Oak Sketch qui s'occupe de défendre les œuvres des tatoueurs. Alors c'est toujours bien qu'il y ait une structure qui s'occupe comme ça des tatoueurs. Cela dit, il faut quand même voir à pas avoir les dents qui rayent le parquet. Comme dit, je suis pas sûr de bien comprendre la démarche, mais je continue. Qui disent que la justice américaine avait été saisie en 2016 par la société Solid Oak Sketch, donc voilà, qui reprochait aux éditeurs du jeu vidéo d'avoir reproduit à l'identique 8 tatouages, dont 3 de la star de Los Angeles Lakers, LeBron James. Putain, quel crime! Ce dernier avait notamment soutenu les éditeurs du jeu en déclarant qu'il avait toujours pensé avoir le droit d'accorder des licences d'exploitation de son image, hein, et ce, pour toutes sortes de produits dérivés. Néanmoins, ces tatouages sont susceptibles d'être protégés par le Copyright Act de 2014, encore un superbe texte qui doit être perdu sur une pile de 5 mètres de feuilles A4 volantes dans les textes de loi. Dès lors qu'il révèle des créations protégeables selon la liste établie par le Copyright Act, sous réserve néanmoins qu'ils soient originaux et fassent l'objet d'une fixation sur un support tangible. Bon, alors, clairement, là, ça devient plus très intéressant. On est vraiment dans le verbeux et on est dans ce qu'on appelle la loi. La loi qui s'allonge de jour en jour, qui s'étire un peu comme notre univers, ça devient infernal. C'est-à-dire que bientôt, on pourra être poursuivi pour des trucs qu'on ne savait même pas, très clairement. Hein. Je pense que l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » aujourd'hui n'est absolument plus valable, à moins d'avoir un QI de 260 et d'avoir passé sa vie jusqu'à ses 60 ans à lire tout ce qu'il y a à lire. Et donc l'avocat nous dit aussi que le tatouage peut aisément être défini comme un dessin ou une gravure qui est fixée sur le corps du tatoué, soit sur un support tangible. La première et la dernière condition ne faisaient ainsi pas débat. En revanche, concernant l'appréciation de l'originalité des créations, chaque tatouage doit faire l'objet d'une appréciation distincte. À cet égard, il est certain que si les tatouages représentaient des idéogrammes chinois ou de simples formes géométriques, le tatoueur n'aurait fait œuvre d'aucune créativité. Le bénéfice de la protection prévue par le Copyright Act serait alors rejeté. Dans l'affaire ici commentée, les 8 tatouages ont été considérés comme originaux et dès lors protégés par le droit d'auteur. Ainsi, leur reproduction virtuelle au sein du jeu vidéo NBA 2K constituait une contrefaçon. Néanmoins, et afin d'échapper à une lourde condamnation, les éditeurs de jeux vidéo litigieux ont soulevé 2 exceptions au droit d'auteur, l'application de minimis use et le fair use. Bon, je vous passe les détails, je vais vous l'expliquer très rapidement. En fait, les exceptions donc de minimis use et de fair use, minimis use, c'est en fait simplement de poser la question de l'impact, si l'impact vraiment est très petit. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que, bon, si tout le jeu est basé sur le tatouage, bon ben voilà, effectivement, ça peut porter à préjudice. Par contre, si c'est que 3 joueurs sur plus de 400, et je crois que c'est le cas dans le jeu, qui est une reproduction fidèle du tatouage, voilà, ça pose pas de souci. Je pense pas que les gens s'amusent à faire stop et puis un imprime-écran pour se pignoler sur le tatouage à la reproduction exacte de la version digitale de LeBron James. Et l'exception du fair use, en fait, c'est simplement si ce tatouage a une utilité particulière, si l'utilisation est faite de façon bénigne, et s'il y avait déjà eu présentation des tatouages, c'est-à-dire si ça n'était pas des choses cachées, si c'était pas volontairement ancré ou déposé dans l'univers de l'art, s'il y avait vraiment comme ça une sorte de naïveté à les montrer, et que finalement ces reproductions ne privaient nullement les requérants d'un quelconque marché. Que bien sûr, le jeu vidéo ne faisait pas de fric tout particulièrement avec ces tatouages-là, ces reproductions en tout cas de tatouages. En somme, il est dit que si le tatouage apparaît de manière accessoire, c'est-à-dire qu'il ne constitue pas le sujet principal d'une reproduction, une telle reproduction n'est pas contrefaisante. En revanche, si le tatouage est reproduit sur un cliché ou un film de manière principale, l'autorisation du tatoueur est indispensable et en cas contraire, celui-ci peut obtenir un dédommagement. Alors pour le coup, autant je pourrais comprendre dans la musique, parce que effectivement la musique va avoir aussi ce vecteur un peu de transporter et de rythmer et d'animer le jeu vidéo, de lui donner sa propre identité visuelle. Autant dans le tatou, honnêtement, je suis un peu perdu. Il y avait un cas aussi, je crois, dans Hangover 2, où il y a un des gars qui se retrouve avec le tatouage de Mike Tyson sur le visage. Et le Tahitien qui a fait le tatou à Mike Tyson avait apparemment porté plainte aussi. Voilà. Non, sincèrement, moi je trouve que c'est ridicule, je trouve que ça va beaucoup trop loin. Je trouve que ça va beaucoup trop loin. Il y a trop de propriété intellectuelle là-dedans, c'est trop complexe. Est-ce que toutes les mères du monde qui donnent naissance à un sportif ou à une célébrité se plaignent d'avoir le fruit de leurs entrailles sur des écrans télé? Est-ce qu'elles aussi, en fait, elles peuvent porter plainte? Ça va trop loin. Je pense que ça va trop loin. Je pense que l'art doit rester, dans ses bottes à lui. Et les histoires de thunes dans les bottes de la thune. Sinon, on va pas s'en sortir. Ça va être vraiment, vraiment trop compliqué. Est-ce qu'il faut faire payer les gens qui regardent le tatou? Enfin, c'est trop là. Pour moi, c'est beaucoup trop. Bon, mais sinon, pour clôturer cet épisode du droit, du légal, de la propriété intellectuelle, etc., concernant le tatouage et le tatouage utilisé dans les jeux vidéo, je pense sincèrement que c'est une grosse question de thune. On va pas se voiler la face. Principalement, les gars, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est la thune. Après, le respect de l'œuvre du tatoueur, je peux comprendre. Mais disons que je trouve ça un petit peu malvenu comme ça de venir râler parce qu'un jeu vidéo a digitalisé une personne qu'on a tatouée et que le tatouage se retrouve dans le jeu vidéo. Quoi. Bon, voilà. Alors, tout ça, c'est très intéressant. Je vais m'arrêter là pour tout ce qui est légal parce que bah, c'est peut-être intéressant, mais c'est super chiant. Vous pouvez me dire en commentaire hein, si vous êtes d'accord ou pas avec tout ça, avec ces histoires de loi. Je crois savoir vers quoi ça va tendre. Parce que ça devient complètement la foire à la saucisse. Cela étant, voilà, je vais résumer tout ça en disant que y a plein de trucs sympas à prendre dans le monde du jeu vidéo avec le tatouage. Ça tend à se populariser, je trouve. On va avoir de plus en plus ces questions légales qui vont arriver, mais on a aussi de plus en plus le tatouage qui s'immisce comme ça, par-ci, par-là. Dans différents médias et notamment les jeux vidéo, et je trouve ça très chouette. Alors de mon expérience personnelle, moi les tatouages dans les jeux vidéo, ça a toujours été un gros kiff. De toute façon, dès qu'il y a de la customisation, nous on se régalait. Alors à l'époque de World of Warcraft, quand moi j'y jouais, on était dans la Horde, donc c'est l'équipe des méchants pour ceux qui savent pas. Et voilà, avec les potes, il n'y avait pas de tatouage à proprement parler, je crois. Tu ne pouvais pas custom mettre des tatouages. Ou alors je dis une connerie, mais en tout cas, à la période où on jouait, c'était pas, il n'y avait pas encore ce truc de transmo. Bref, mais le kiff, c'était de mettre tout ce qu'on pouvait sur notre personnage. C'est-à-dire que s'il y avait une skin ou s'il y avait une apparence qui était disponible quelque part, en général, on la rajoutait parce que le plus égale le mieux. Et dans les jeux vidéo actuellement, comme je disais avec Diablo 4, et ben voilà, c'est un peu ce gros plaisir de pouvoir se barder de partout. On a envie que notre personnage, il ait une touch toute badass à mort. On a envie voilà que et c'est ça qui est cool d'ailleurs, parce qu'on a gardé avec le temps, même à travers toutes ces années aujourd'hui, voilà, on veut placer le tatouage un petit peu ailleurs, dans des trucs un peu plus esthétiques. On a gardé ce côté badass quand il s'agit de fracasser du monde dans un jeu vidéo. On associe encore beaucoup le tatouage à une certaine virilité. Je trouve ça très chouette. Ça garde un peu de son... Comme j'ai expliqué avec Far Cry, ça garde un peu de son originalité, c'est-à-dire de sa fonction première, qui à l'époque était de marquer les gens qui avaient bravé quelque chose dans la vie ou qui s'était dépassé. Mais voilà, je trouve que le tatouage dans les jeux vidéo, c'est de la frénésie. On a envie de se mettre les trucs les plus inavouables. Voilà. Bon, je vous laisse là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Il m'a demandé pas mal de travail. Je verrai pour faire peut-être un épisode 2 parce qu'il y a encore 2-3 trucs à dire qui sont assez sympas. Si vraiment l'épisode vous a plu, je sortirai l'épisode 2 et puis sinon c'est pas grave, on passera à autre chose. Comme d'habitude, si vous ne me suivez pas encore sur les réseaux sociaux, je vous invite à le faire, notamment sur Instagram où je suis le plus actif. Pour me contacter, c'est très simple, vous pouvez me contacter par DM sur Instagram ou alors par mail à l'adresse contact@lebucherondducoin.com. Vous pouvez aller sur mon site internet lebucherondducoin.com pour voir un peu les dernières actus, les flashs, les trucs comme ça. N'hésitez pas à liker et à partager mon travail, ça me donne beaucoup de force, je me répète, mais vraiment c'est quelque chose qui est essentiel à mon travail. Aujourd'hui ça marche comme ça, j'ai besoin de visibilité. Voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.